Morning Edition from NPR News.
That's it, he's on the house.
France Inter, le 18-20.
Ce soir, il sait encaisser les coups, Mark Zuckerberg, mais les auditions du Congrès la semaine dernière, de ces auditions, il ressort un peu amoché, un peu sonné quand même. Sa crypto-monnaie Libra n'a pas convaincu, pas plus qu'elle n'a d'ailleurs convaincu les Européens. Avec cette monnaie, Facebook paye l'addition des multiples controverses du passé. On y vient dans un instant, on verra si elle est déjà morte ou pas d'ailleurs. Le bruit du monde est en Suisse, avec ceux qui demandent réparation pour des internements abusifs. 40 ans après, vous verrez que c'est pas simple à écouter. Le bruit du monde sous les radars, c'est Estelle Schmitt. Et vous entendrez parler de demandes de réparation là encore, mais au Kenya. Et puis d'un petit plombier aussi, un plombier japonais en salopette décoré dans son pays. 18h50, le cinéma en VO, c'est Eva Béton avec Marco Bellocchio. 18h55. Le monde à l'envers. Et Cyril Sauvageau, cette fois, rien ne va plus en Éthiopie, et ce, depuis le prix Nobel de la paix au Premier ministre. C'est tout de même dommage, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Pascal Bott.
Bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous êtes auteur, réalisateur. Votre jardin, ce sont les questions numériques notamment. Ça tombe bien, vous sortez dans la tête de Mark Zuckerberg. C'est publié chez Solin, Actes Sud, je le disais. Libra, donc la crypto-monnaie, visiblement attendra. Il s'est fait secouer, Zuckerberg, clairement, par le Congrès américain. Pas seulement d'ailleurs. Bref, il n'y a pas les feux verts. Est-ce que ça sent l'idée mort-née, sérieusement, à ce stade ou pas?
Je ne sais pas si ça sent du sapin. Ce qui est sûr, c'est que c'est très très compliqué pour lui. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu l'ennemi de tout le monde. Il s'est mis à peu près tout le monde à dos, que ce soit aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde. Et dans le même temps, il faut un peu se méfier. C'est-à-dire que, à mon avis, si on regarde sur le temps long et quand on regarde un peu l'histoire de Facebook et de Mark Zuckerberg, il n'est pas de nature à renoncer. Ce qui est certain, c'est que la méthode qui a été la sienne pour essayer d'annoncer le Libra a pas forcément été la meilleure. Puisque de nombreux gouvernements ont appris par voie de presse que Facebook s'apprêtait à lancer un système de paiement. D'ailleurs, il y a même un litige sur le fait de savoir si c'est une crypto-monnaie ou un système de paiement.
Peut-être même qu'il y a eu un problème de vocabulaire de sa part. En fait, ce serait peut-être passé un peu plus facilement s'il avait simplement dit que c'était un système de paiement. Parce que ça existe déjà sur WeChat et sur d'autres endroits, en fait.
Exactement. Il y a par exemple les Chinois qui ont très bien développé des équivalents. Non, la vraie question, c'est est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? À l'heure actuelle, ce qui est sûr, c'est qu'il tente à dire et à montrer qu'il continue. Pour lui, l'horizon est clair. Il y a 2 milliards de gens qui sont exclus du système bancaire. Il se trouve que pour une majorité d'entre eux, ils sont connectés sur Facebook. Donc lui, forcément, il fait l'équation qui est très simple, qui est de se dire, j'ai une puissance de feu sans pareil. Il y a des gens qui n'attendent qu'une chose, c'est transférer de l'argent de manière très très simple, en particulier en Afrique. Et il voit aussi les Chinois qui, de l'autre côté, ont bien identifié ce marché. Parce que finalement, l'Europe, dans cette question-là, est peut-être pas le chantier prioritaire, ou en tout cas le marché prioritaire.
Mais alors, Julien Le Vôtre, est-ce qu'on peut dire qu'il a été quoi? Est-ce qu'il s'est mal préparé? Est-ce qu'il a pêché par orgueil? Est-ce qu'il n'a pas vu venir les critiques? Ou alors, est-ce qu'il sait très bien où il va, ce Mark Zuckerberg? Au fond, il a un cap, le garçon, c'est aussi un peu ce qu'on comprend en vous lisant. Il savait très bien qu'il essuierait ce genre de critiques et il savait très bien de la part de qui ça viendrait d'ailleurs.
Je me suis lancé dans ce livre parce que j'avais envie de comprendre sur 15 ans un petit peu quel était vraiment le fonctionnement, le compas idéologique, la philosophie de ce personnage qui est un entrepreneur et un quasi-chef d'État. Et il y a fort à parier qu'une fois encore, il passe brutalement, il passe en force. Et que finalement, quand il lance des appels aux régulateurs, c'est peut-être une façon de dire, bon, me tapez pas trop fort, mais c'est aussi, à mon avis, un signal assez fort qui est de dire, de toute façon, je vais y aller. Donc, soit on travaille ensemble, soit de toute façon, je vais le déployer, ce système de Libra.
Mais quand PayPal s'en va, Visa s'en va, Mastercard s'en va, probablement parce qu'ils sentent que l'affaire est pas tout à fait claire encore, est-ce que c'est grave pour lui ou,
c'est sûr que c'est embêtant, mais je pense que malgré tout, il a quand même continué de demander aux autorités suisses s'il était possible de s'installer et de développer son système sur place. Il y a beaucoup de discussions qui ont lieu en coulisses. Je pense que ceux qui avaient entre guillemets pris le temps de monter à bord pour éviter de peut-être louper révolution, voilà, se disent bon bah maintenant on va se retirer un peu parce que ils reçoivent des courriers des repentants qui disent dis donc on va venir voir un peu tes affaires pour vérifier que. Mais lui dans le même temps, Facebook n'a qu'un intérêt finalement, c'est de continuer. Maintenant que ça a été annoncé, je pense que Mark Zuckerberg compte bien faire en sorte que le Libra reste un système qui va marcher, enfin qui marche.
Mais au fond, c'est quoi la différence entre Libra et le Bitcoin, par exemple? Il y en a un qui est une vraie monnaie, qui est indexée sur rien. Est-ce que c'est pour rassurer que Libra, Facebook, a annoncé qu'il allait s'indexer sur les autres monnaies, etc.? C'est quoi la vraie différence entre ces deux choses-là, au fond?
Alors, je ne suis pas un spécialiste des crypto-monnaies. Ce qui est certain, c'est que pour essayer de rassurer tout le monde, et ce qui en fait a inquiété tout le monde, c'est le fait de dire ce système de paiement sera adossé à des devises, de telle sorte que normalement, la valeur ne bougera pas.
Donc on ne ne se substitue pas non plus. On ne fait pas une autre monnaie. C'est aussi ça qui faisait peur. On
exactement. Fait pas c'est bien un système monnaie, de paiement, ouais. Justement, de ce point de vue-là. Sauf qu'on s'est rendu compte que quand, par exemple, les Américains ont commencé, notamment les représentants au Congrès, un peu à lui dire, écoute, c'est quand même très, très inquiétant ton système, mon cher Mark Zuckerberg, il va falloir faire quelque chose. Il a dit, bon, ne vous inquiétez pas. Finalement, déjà, on pourra peut-être imaginer que, on est plutôt différents paniers de devises. Et il a bien insisté sur le fait que le régulateur qui, à ses yeux, comptait, c'était le régulateur américain. Ce qui, en creux, confirme le fait que, de toute façon, il essaie de ménager la chèvre et le chou. Et comme en ce moment, aux États-Unis, il y a la tentation par le monde politique, que ce soit côté républicain et démocrate, de démanteler l'entreprise, il dit, ne vous inquiétez pas, ma fidélité, ma fibre américaine va faire que c'est le régulateur américain qui, pour moi, sera le plus important.
Et bien justement, on y vient, effectivement, à la manière dont il s'est fait secouer. Et pourquoi, qui veut démanteler Facebook et d'autres? D'ailleurs, écoutez ça d'abord.
Quand la chef des opérations de Facebook, Sheryl Sandberg, a-t-elle été informée sur Cambridge Analytica?
Je n'ai pas la réponse en tête.
Vous ne savez pas. Et si je veux faire des annonces sur Facebook ciblant les électeurs républicains en affirmant qu'ils ont voté pour mon programme du Green New Deal? Je veux dire, si vous ne vérifiez pas les informations politiques, j'essaie juste de comprendre ce que cela implique.
Je ne connais pas la réponse pour l'instant.
Vous ne savez pas si je pourrais publier ça. Est-ce que vous supprimerez les mensonges ou vous ne supprimerez pas les mensonges? Je vous demande une simple réponse par oui ou non.
Je crois que dans une démocratie, les citoyens devraient savoir par eux-mêmes ce que disent les politiciens et pour qui ils vont voter.
Donc vous notifierez les mensonges politiques? Mais vous ne les supprimerez pas.
Sénatrice, cela dépendra du contexte.
Voilà, c'était un petit extrait du Congrès donc la semaine dernière. Alexandra Ocasio-Cortez qui a réellement attaqué Mark Zuckerberg. C'était un petit montage fait par TV5 Monde. Mais ce que ça dit, c'est que de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'il paye Mark Zuckerberg là avec Libra. Il paye les mauvaises ondes de Facebook en ce moment. Il paye les fuites, il paye les fake news. Il paye l'élection de Trump au fond. Il paye Cambridge Analytica. Il paye tout à la fois en fait.
Oui, alors ce qui est très étrange, c'est qu'en ce moment, c'est vraiment l'ennemi de tout le monde. Alors il faut toujours se méfier parce que moi, quand je suis lancé dans ce livre-là, finalement, Facebook n'était pas à ce point scruté par tout le monde. Et à la limite, encore à l'époque, on disait, voilà, Facebook, c'est formidable, le printemps arabe, etc. Ouais. etc. Bon, il faut revenir sur le fait qu'aujourd'hui, il y a une espèce de fronde qui monte à l'endroit de Facebook, parce que depuis 2016, depuis l'élection de Donald Trump, les démocrates, finalement, reprochent à Facebook d'avoir été l'outil de manipulation des électeurs et qui a conduit, finalement, Donald Trump à la présidence de la République. Et côté républicain, il y a cette espèce d'assaut répété et permanent, et qui dit Facebook, c'est donc la Silicon Valley, c'est plutôt démocrate, c'est donc des valeurs progressistes, libérales, on n'en veut pas. Et donc, en fait, il essaie à chaque fois de ménager à la fois, j'ai envie de dire, les sensibilités pro-Trump en disant, ben non, je suis un représentant du free speech, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout dire, tout est dissible tant que c'est dans le cadre de la loi, et dans le même temps, sur le front des démocrates, il dit non, mais je vais faire attention à l'information, je vais créer un onglet news, je vais payer certaines rédactions pour être intégré à l'environnement Facebook.
Ouais, et en même temps, quand je vous lis, 2006, nous avons vraiment fait une erreur, fermez les guillemets. 2007, nous avons fait un mauvais travail, je m'excuse. 2010, parfois nous allons trop vite. 2011, je suis le premier à admettre que nous avons fait pas mal d'erreurs. 2017, je vous demande de me pardonner, je vais faire en sorte de m'améliorer. On a l'impression, il y a cette succession de mea culpa, effectivement, parce qu'au fur et à mesure, quand on voit l'énormité de ce réseau, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne maîtrise pas. Au fond, d'abord, est-ce qu'il maîtrise son réseau? Est-ce qu'il maîtrise réellement ce qu'il fait? Mark Zuckerberg.
Alors c'est l'une des hypothèses que j'avance dans ce livre, effectivement, c'est que je pense que cette créature, ce que j'appelle la créature, lui a sans doute échappé des mains. C'est pour ça que je pense qu'il y a comme une tension presque entre Frankenstein et le Candide de Voltaire, c'est-à-dire qu'on a affaire à un personnage génial qui a su faire une immense mécanique de tuyaux, sauf qu'à l'heure actuelle, elle est devenue si puissante, elle génère tellement d'argent que finalement, sans doute qu'elle est impossible à maîtriser.
Et vous vous demandez même s'il sait la responsabilité au fond qui est la sienne. Ça nous ramène aussi un peu à Libra. Dès qu'on se met à toucher de l'argent, c'est quand même encore une autre mayonnaise que... Alors, c'est déjà très grave sur les fake news et le reste, mais là, on est vraiment sur autre chose. Donc, à la fois, il y a cette espèce d'ambivalence où il sait qu'il est très critiqué, il sait qu'il y a eu des erreurs plusieurs fois, mais il se lance quand même dans quelque chose qui pourrait être encore plus critiquable.
Parce que je pense qu'il a... au fond de lui, par-delà le cynisme ordinaire d'un grand entrepreneur qui se dit qu'il faut absolument développer sa technologie et ne pas laisser la concurrence prendre de la place, il a, je pense, cette conviction techno-optimiste, et ça on le voit bien dans tous les exemples que je recense dans ce livre, selon laquelle il faut que l'information circule. Et il a une vision très extensive de l'information, c'est ce qui est dangereux, c'est-à-dire tout un tas de presque de mensonges doivent être confrontés, partagés sur la place publique, et finalement chaque citoyen est suffisamment éclairé au bout du compte pour que la vérité triomphe. Et évidemment c'est beaucoup plus compliqué que ça.
C'est plus compliqué, et en même temps on ne pourra pas lui reprocher de ne pas avoir essayé très très durement. Là aujourd'hui, juste avant que vous arriviez, Facebook annonce le démantèlement d'une opération de désinformation russe en Afrique, donc on a un peu le sentiment qu'il essaye tout pour se refaire une virginité aussi, mais ça a du mal à marcher désormais, ça pouvait marcher jusque-là, aujourd'hui ça a l'air plus compliqué de convaincre pour un Zuckerberg.
Oui, et pourtant depuis 2016, il faut reconnaître qu'il a fait des progrès, c'est-à-dire que le livre, j'essaie vraiment de faire la part des choses, de rester nuancé, et on a quand même la sensation qu'à partir de 2016-2017, il a commencé à réaliser que ce qu'il appelait des conséquences inattendues, et bien effectivement il y avait des dommages qui pouvaient être provoqués ici ou là, sauf que pour lui c'est quand même très très loin, c'est-à-dire que le monde reste très très loin des parois de verre de ses beaux bureaux à Menlo Park, et il a du mal à comprendre que la désinformation par moment peut tuer. Donc on a cette oscillation permanente entre un discours où il dit « je suis responsable, je fais très très attention et nous sommes prudents » et effectivement il investit beaucoup sur les questions de sécurité au sens large, et dans le même temps il y a cette volonté permanente de dire « je fais de la tech, je ne suis pas l'arbitre des vérités, donc je ne voudrais pas censurer le discours ».
Exactement, et c'est ce que vous dites au début d'ailleurs, Julien Lebotte, il dit « l'important c'est le code ». Donc on sent bien que ce qui l'amuse en fait, lui, c'est de fabriquer tout ça, mais les conséquences, à la limite, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ou est-ce qu'il commence seulement à se rendre compte que les conséquences du code, comme il dit, donc le jeu de créer ça, ont beaucoup plus d'importance que le code lui-même?
Je pense qu'encore une fois, il a bougé. Le fait que le code fasse la loi, il en est intimement convaincu, sauf qu'il se rend compte qu'il y a un monde avec des gouvernements, il faut composer, il y a des lois, il y a des contextes de réception des messages. Mais il faut quand même revenir à la façon dont, à chaque fois, il déploie sa machine. Par exemple, prenons l'exemple birman. L'exemple birman, quand Facebook a été lancé en Birmanie, en s'associant d'ailleurs de près aux opérateurs sur place, il n'y avait aucun modérateur sur place pour Facebook et personne ne parlait le birman chez Facebook. Donc, on a toujours cette espèce d'idée selon laquelle, en ouvrant les tuyaux, en mettant des utilisateurs sur une plateforme, par la grâce, on va dire, des algorithmes et des contrôles de l'intelligence artificielle, eh bien, la vérité triomphera. Non, c'est pas possible de penser comme ça.
Vous l'avez évoqué, elle l'a redit d'ailleurs au moment de Libra, Elizabeth Warren, qui est candidate démocrate, veut le démantèlement de Facebook, mais elle n'est pas toute seule, il y a même des questions autour du démantèlement, de toute façon, des GAFA, en fait, qui sont devenues tellement puissantes et tellement fortes. Est-ce que ce sont des menaces qui ont un sens, ça? Est-ce qu'on peut réellement toucher et démanteler quelque chose comme Facebook ou un autre ou pas ?
Alors, ce qui est très compliqué, c'est que Facebook est aujourd'hui en train d'intégrer l'ensemble de ses familles d'applications d'un point de vue technique, rendant, on va dire, techniquement de plus en plus compliqué l'idée de démanteler les différentes applications qui appartiennent à Facebook, donc Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, et souvent, il y a des utilisateurs qui ne réfléchissent pas, enfin, qui ne mesurent pas le fait qu'ils sont chez Facebook quand ils sont sur d'autres solutions. Mais dans le même temps, une espèce de pirouette de l'histoire, ironie de l'histoire, c'est que la Chine est aujourd'hui une menace réelle pour les États-Unis et pour Facebook, et donc il y a fort à parier que les représentants américains réfléchissent à deux fois avant de démanteler Facebook, de peur que des entreprises comme ByteDance, qui possèdent des applications comme TikTok, puisse finalement venir prendre la place de Facebook.
Mais ce serait techniquement faisable, voire légal d'ailleurs, de démanteler quelque chose de cette ampleur ou pas ?
Ben, ce qui est sûr, c'est que la FTC, donc, qui s'occupe normalement d'arbitrer sur le fait de savoir si oui ou non ça constitue un problème de monopole, à l'époque a jugé que c'était possible que Facebook rachète WhatsApp, Instagram, donc ça ne posait pas de problème. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur des décisions antérieures ? Ça pose tout un tas de questions juridiques, bien évidemment. Et encore une fois, techniquement, les solutions sont en train d'être intégrées. Et comme la Chine, elle, continue son chemin avec ses solutions, voilà, je pense que Mark Zuckerberg n'est pas complètement, comment dirais-je, perdu face à l'administration. Il a encore, à mon avis, des ressorts possibles. Il peut réussir, et puis il met beaucoup d'argent sur le lobbying, donc il peut réussir à sauver Facebook. C'est ce qui est d'ailleurs très inquiétant.
Il peut réussir à sauver Facebook. Ça veut dire qu'on en est quand même au stade où il faut sauver le soldat Facebook, quand même. C'est aussi ça que ça veut dire.
Parce que
du coup, pour boucler la boucle, la question que je me pose, c'est est-ce que Libra, c'est l'erreur qu'il aurait peut-être pas dû commettre, en fait?
Ou alors, au contraire, feu qui est ouvert, c'est peut-être même un tir de barrage. C'est-à-dire que
pour faire diversion, vous voulez dire?
Oui, ça me paraît pas complètement impossible. C'est-à-dire que, non, mais il n'y a pas du tout de théorie du complet. C'est-à-dire que je pense que l'entreprise est extrêmement puissante. Ouais. Je pense qu'il a cette conception techno-optimiste. Il faut revenir sur Libra. D'ailleurs, la Libra s'appelle Libra parce que c'est une allusion à la monnaie romaine. Il faut penser un peu à cette passion qu'il a. Ses deux filles s'appellent Maxime et Auguste. Donc, référence à l'empire et à l'empereur
Auguste. Un peu effrayante, vous à moi, d'ailleurs.
Mais oui, absolument. absolument. Mais c'est pour ça que je pense que j'ai presque envie de dire que son techno-optimisme est un facteur accablant et c'est ce qui devrait nous inquiéter. Mais dans le même temps, l'entreprise étant très puissante, elle dépense beaucoup d'argent en lobbying. Il n'est pas du tout dit que l'entreprise sera démantelée. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de régulateurs dans le monde entier qui sont en train de montrer les dents. Donc voilà, il y a encore temps de réagir et j'espère justement que tous ceux qui liront ce livre ou se documenteront sur ces questions verront qu'il est encore possible de réagir.
Eh bien voilà, Julien Le Botte, ça s'appelle « Dans la tête de Mark Zuckerberg ». C'est publié dans une collection qu'on aime bien, nous, Un jour dans le monde, qui s'appelle « Sur l'Acte Sud ». Merci beaucoup.
Merci.
Le 18-20, Fabienne Synthès, sur France Inter.
Le 18-20, la suite, c'est le bruit du monde. C'est en Suisse ce soir avec des demandes de réparation après des internements abusifs. On parle d'enfants notamment, des histoires qui ont plus de 40 ans, mais vous allez l'entendre, qui sont encore extrêmement dures à entendre. Le bruit du monde, la suite, Estelle Schmitt avec le Japon qui rend hommage à un petit plombier en salopette.
Oui, son créateur Shigeru Miyamoto sera bientôt reconnu personne de mérite culturel dans son pays et c'est pas trop tôt.
Allez, ce sera Mario Bros, donc le cinéma en VO et Eva Bettan, le cinéma italien qui tient encore un vrai représentant de son âge d'or.
Marco Bellocchio, plus d'un demi-siècle de cinéma et il se passe cette chose rare, c'est de mieux en mieux.
Allez, à tout à l'heure, le monde à l'envers et Cyril Sauvageau. Cyril, qu'est-ce qui se passe en Éthiopie alors depuis le prix Nobel ?
Eh bien, depuis que le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu le prix Nobel de la paix, il n'a jamais eu autant de problèmes dans son pays. Il est confronté à une crise politique majeure.
On voit ça dans un instant, hein, tout de suite. Tout le monde, le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par Détroit aux États-Unis avec Lizzo, Truth Hurts sur France Inter.
I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the sing in single. Ain't worry about a ring on my finger. So you can tell your friend, shoot your shot when you see him. It's okay, he already in my DM. Why men gray till they gotta be gray? Don't text me, tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair.
Le bruit du monde ce soir est en Suisse où ressurgit un passé compliqué. Saviez-vous que jusqu'en 1981, les autorités pouvaient interner tous ceux dont le mode de vie paraissait suspect aux yeux de la Suisse de l'époque? On parle d'alcooliques, on parle d'homosexuels, on parle de femmes enceintes non mariées, on parle d'enfants arrachés à leurs parents, parfois abusés, le plus souvent maltraités. Aujourd'hui, une commission nationale demande réparation des préjudices subis par les victimes. Mais près de 40 ans après, vous allez voir que beaucoup n'osent toujours pas prendre la parole. Et c'est ce que nous raconte Jérémy Lanche.
Regardez, voilà, j'ai le cercueil de celui qui m'a... Ça, c'est le père qui m'a violé quand il est mort en 2007, à l'âge de 83 ans. Voilà.
Pendant longtemps, Hubert Meyer n'a pas voulu raconter son histoire. Placé à 9 ans dans un pensionnat catholique, ce fils de domestique a été abusé pendant des années par des prêtres, avant d'être placé, toujours sans raison, en centre de détention. Aujourd'hui, tout dans son modeste appartement situé au bord du Rhône rappelle son passé, comme ce tableau qui trône au milieu du salon.
Vous voyez un homme à terre, avec un fouet à la main, avec sa croix catholique qui traîne par terre et qui saigne. Et dessus, vous avez un enfant, qui peut être moi, qui, avec l'arbalète, a lancé tout le dossier mariniste. Et ce dossier, ce fameux curé violeur, se le prend sur la tête et il meurt.
L'Institut Marigny, dans le canton de Fribourg, c'est l'un des lieux par lequel le scandale est arrivé. Privation de nourriture, viol, maltraitance en tout genre. Hubert Meyer avait bien tenté d'en parler à sa mère, mais sans succès.
Quand je rentrais à la maison, je tombais dans les bras de ma mère et je lui disais « Mais maman, j'ai pas l'envie d'y retourner. » Elle me dit « Mais c'est bien, tu te rends compte. Ce que monsieur le curé Corninboeuf te propose, on n'aurait pas pu t'aider à faire ces études-là. » Petit à petit, je faisais comprendre à ma mère qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales. Et je me suis pris une claque par ma mère qui m'a dit « Mais c'est toi qui es le pervers. C'est en toi. L'Église, c'est pas possible. »
Alerté, l'évêché lancera un appel à témoins en 2015, suivra un rapport qui dénonce la culture de l'impunité au sein de l'Église. Charles Morero est l'évêque du diocèse de Fribourg.
Les gens se couvraient mutuellement et surtout, on n'osait pas parler. Parfois déjà, le fait que les gens parlent et qu'on les croit a pour eux une valeur même plus grande que les réparations financières qu'ils puissent recevoir. On leur dit « Je sais que vous n'étiez pas un menteur, c'était pas de votre faute ».
L'histoire de Daniel Sevet est un peu différente, mais les traumatismes sont là aussi toujours présents. À 2 ans après la disparition de son père, le canton de Vaud estime que sa mère ne peut pas s'occuper de ses 6 enfants. Ils sont placés un peu partout en Suisse. Daniel atterrit chez des paysans où il est privé de tout, sauf des coups de ceinture du chef de famille.
Je suis resté à peu près 8 ans là-bas, avec la particularité que mon frère et moi, c'est qu'on nous a privés de scolarité. On nous mettait au fond de l'école, on n'avait pas de cahier, pas de livre, on ne s'intéressait pas à nous, rien du tout.
Les années passent, Daniel Sevet est placé dans d'autres institutions, toujours pas d'école, mais un travail éreintant à ramasser le fumier des volailles toute la journée, et tout ça sans jamais rien gagner.
J'ai 3 patrons où je travaille, où j'ai des salaires, mais je vois rien du tout parce que c'est l'État de Vaud qui les saisit pour payer les internements et les placements dans les institutions. Parce que moi, en plus, ils ont trouvé le moyen de m'interner dans un hôpital psychiatrique à l'hôpital de Sri, au-dessus de Lausanne.
Pour quelle raison ?
Aucune raison. La raison du tuteur, c'était « je savais pas où te mettre ».
Aujourd'hui âgé de 76 ans, Daniel Sevet ne veut rien oublier. La Suisse a bien accordé 25 000 francs, à peu près 23 000 euros à toutes les victimes encore en vie. Une somme dérisoire pour une vie foutue en l'air, dit l'ancien enfant placé qui vit aujourd'hui de l'aide sociale.
25 000 francs, c'est rien du tout. C'est de l'esbrouf. C'est pour tromper la population, pour montrer qu'ils font quelque chose, mais en fait, il n'y a rien derrière. Il y avait suffisamment de lois qui empêchaient ça. Mais ça s'est fait quand même. Alors je ne vois pas pourquoi nous on arrêterait. Moi en tout cas j'irai jusqu'au bout, je ne lâcherai pas. Il y en a qui disent qu'ils peuvent pardonner, mais moi je ne leur pardonnerai jamais.
Sur les 60 000 personnes placées en Suisse au siècle dernier, 15 000 environ seraient encore en vie. Mais moins de la moitié se sont manifestées pour obtenir une indemnisation. Ce qui n'étonne pas Pierre Avanzino, cet ancien professeur en sciences sociales, a longtemps travaillé sur la question des enfants placés.
On ne peut pas mesurer la souffrance et la traduire en francs. Des tas de personnes, et j'en connais, ont voulu rester anonymes et ne pas raconter leur histoire parce qu'il subsiste toujours un immense sentiment de honte d'avoir eu des mauvais parents, d'être jugé par la société comme des incapables, des vicieux. Il y a toujours cette crainte-là de ne pas être cru, donc on se tait plutôt.
Il y a quelques semaines, la commission indépendante sur les internements administratifs a remis son rapport final aux autorités. Elle recommande de verser une rente à vie aux victimes et de les exonérer d'impôts. Près de 40 ans après la fin de ce système, la réhabilitation des enfants placés, disent les experts, ne fait que commencer.
Jérémy Lanche en Suisse pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup. Le bruit du monde, ça continue sous les radars et c'est maintenant. Est-ce que vous entendez là, ce bruit vient d'une plantation de thé au Kenya. Là aussi, tiens, il est question de réparation. Estelle Schmitt, nous sommes à Kericho, c'est dans l'ouest du pays, des terres fertiles dont se sont emparés les colons britanniques, c'était dans les années 30. Et aujourd'hui, les Kenyans demandent donc réparation.
Plus de 100 000 personnes ont signé une plainte auprès de l'ONU, nombre descendants des communautés Kipsigi et Talaï, lassés d'avoir été ignorés depuis tant d'années. 1934, à Kericho, des familles entières expropriées, expulsées par le colon blanc parce que ces terres étaient idéales mondial, justement, pour la culture du thé. Depuis, le Kenya est devenu troisième producteur mondial de thé après l'Inde et le Sri Lanka. Mais jamais ces communautés qui y vivaient pourtant depuis des centaines d'années n'en tiraient le moindre bénéfice. Les avocats de leurs descendants accusent même l'armée britannique, les administrateurs coloniaux de viols, de meurtres et plus globalement de violations des droits de l'homme dont personne n'a jamais répondu. Kibore Cheruiyu Ngasura a 94 ans, seul survivant connu de cette déportation de masse. Il était enfant lorsque sa famille était expulsée.
Je suis tellement en colère parce qu'on était très riches. Je veux que les Britanniques s'excusent pour qu'on puisse être amis et se prendre enfin dans les bras.
Kibore, interrogé par l'agence France Presse, est revenu depuis vivre sur la terre de ses ancêtres. Et dans les jours qui viennent, les avocats britanniques et kényans des victimes devraient se rendre à Kericho. Pour eux, le Royaume-Uni, en tant qu'ancien pays colonisateur, est responsable. Quant aux compagnies qui exploitent aujourd'hui ces terres, dont Unilever pour la marque Lipton ou encore Finlay, eh bien, ne veulent pour le moment pas s'exprimer.
Une découverte étonnante à présent, Estelle, dans le nord d'Israël, à Acre.
Tout un réseau de tunnels secrets enfouis sous la ville. Il y en a des kilomètres. Des archéologues ont réussi à prouver l'existence de ces vestiges à l'aide d'une technique très poussée. Un balayage aérien de la zone, puis des calculs savants de distance entre le capteur, l'objet visé. Je vous passe les détails. Mais les archéologues ont pu voir les souterrains de la ville sans avoir à creuser, c'est important. Et ils se sont rendus compte qu'il s'agissait de tunnels cachés. C'est dans le cadre d'une nouvelle série de documentaires de la chaîne de télé nationale Géographic que cette découverte a été faite. Alors, vous allez me dire qui les a creusés et pourquoi. Mais je vous invite à descendre quelques marches sous une église d'Acre. C'est Eliezer Stern, archéologue israélien, responsable des antiquités, qui nous ouvre la porte.
Let's go. Here we are in the 12th and 13th century. This is underground buried crypt. This is really where the Templar was 800 years ago.
Voilà, extrait du documentaire de National Geographic. Nous sommes, vient de dire l'archéologue Eliezer Stern, au 12e, 13e siècle, c'est dans une crypte. Et c'est là qu'œuvraient les Templiers, il y a 800 ans. Les Chevaliers du Temps, petit rappel, c'est un ordre militaire et religieux chrétien issu de la chevalerie du Moyen-Âge. En Israël, dans un contexte de guerre sainte, de croisade, les Templiers accompagnaient, protégeaient aussi les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem. Ils étaient aussi à la tête d'un pactole conséquent, beaucoup d'argent issu de dons ou de rentes. En 1312, l'ordre a été dissous par le pape, mais les chercheurs aujourd'hui sont toujours passionnés par ces chevaliers. Ils pensent d'ailleurs que ces tunnels servaient à transporter leur trésor vers un poste de garde, un trésor qu'ils espèrent trouver à Acre un jour.
Ah, le fameux trésor des Templiers, allez. Alors ça nous ramène très très loin en arrière, c'est très très générationnel. En voilà en tout cas Estelle, qui a tiré sa fortune des jeux vidéo. Shigeru Miyamoto sera bientôt distingué au Japon.
Oui, c'est l'un des plus grands concepteurs de jeux au monde. Super Mario, on l'entend évidemment, Zelda ou encore Donkey Kong, ça reste dans la tête. Dans quelques jours, il sera personne de mérite culturel dans son pays, le Japon. Distinction suprême qui équivaut en France à l'ordre des arts et des lettres. Et au Japon, c'est un événement parce que c'est le premier créateur de jeux vidéo à recevoir ces honneurs. On ne peut pas s'empêcher de se dire aussi que c'est une reconnaissance un petit peu tardive pour cet homme de 66 ans qui a débuté sa carrière en 1977 chez Nintendo et pour le jeu en général aussi, qui est une institution au Japon et pas jusqu'ici tout à fait considérée comme de la culture. Et d'ailleurs en France, petite pique dont on dit souvent qu'elle est en retard dans le domaine des jeux vidéo, et bien la France l'a fait chevalier de l'ordre des arts et des lettres. C'était en 2006, Na.
Et voilà, Na, comme vous dites, Estelle Schmitt, merci beaucoup. Et le bruit du monde, à demain. On parle cinéma dans un instant, dans Un jour dans le monde avec Eva Béton. Un détour auprès des Anglais d'Oasis. Don't look back in anger. Le Back in Anger, c'est devenu un hymne, cette chanson d'Oasis. Et voici une légende, Eva Béton est dans la place.
France Inter. Un jour dans le monde.
Qu'est-ce qu'il y a, mes bouchettes ? Dottor Falcone, noi dobbiamo decidere solo una cosa. Chi deve morire prima, lei o io?
Io rinnego questo nome, io rinnego Tommaso Buscetta!
Non ci sono intoccabili. Non mi fraintenda, ma ho più paura dello Stato che della mafia.
Onnetopa! Ma sei stato! Onnetopa!
L'homme derrière ce film, Eva, va bientôt avoir 80 ans. Il est toujours en
novembre.
Voilà, il est toujours en activité. Joyeux anniversaire. Il est au sommet de son art. Marco Bellocchio, l'un des derniers, le dernier peut-être, des cinéastes italiens de la grande époque. Ouais. Son dernier film, Le Traître, sort aujourd'hui.
Alors, faire de beaux films à un âge vénérable, c'est pas si rare. On peut citer John Huston qui a fait Jean de Dublin, une merveille, en chaise roulante avec sa bonbonne d'oxygène. Plus récemment, plus près, Ken Loach,
bien
bon
sûr.
Pied, bon oeil. Sorry, I Missed You. Vous allez voir bientôt le Polanski, 86 ans, formidable, j'accuse. Le cas de Bellocchio, c'est autre chose. On le croyait perdu pour la cause. Or, les 20 dernières années ont vu se succéder une rafale de grands films et même de chefs-d'œuvre. La nourrice, Le sourire de ma mère, Buongiorno Notte sur l'assassinat de Moro, Vincere sur Mussolini. On le croyait perdu parce que lui qui avait été l'enfant terrible, l'enfant enragé du cinéma italien qui arrive dans les années 60 en même temps que Bertolucci, les années 90, on le disait, sous l'emprise d'un psychanalyste gourou. Les films étaient plus flous. Et puis, tout d'un coup, il y a comme une synthèse, une apothéose. Tout est limpide, tout est une puissance. Là, il s'agit de la mafia. C'est une continuité. Il a toujours dit que les familles étaient mortifères, que ce soit la bourgeoisie, que ce soit l'église, que ce soit la famille de sang. La mafia, qu'est-ce que c'est ? C'est la famille ultime qui est mortifère et qui assassine en même temps. C'est inspiré, vous le savez, d'événements authentiques. Un repenti qui parle au juge Falcone qui conduit à un maxi-procès dans les années 80. Et vous allez voir, il y a une scène extraordinaire qui est la scène du procès. On voit un homme qui a réussi à prendre des distances par rapport à ce qu'il était. Et on voit les autres qui sont encore comme des bêtes sauvages. Alors, oui, on a un cinéaste, on a une belle chose, un demi-siècle de cinéma et un cinéaste qui culmine. Il a été enragé, on ne peut pas dire qu'il s'est calmé. Mais sa rage a changé, Marco Bellocchio.
In questo mezzo secolo, la mia rabbia è cambiata.
En un demi-siècle, ma rage a changé. Je me considère comme un progressiste. Mais j'y crois encore plus que comme j'ai pu y croire. Et cela s'est vu dans certains de mes
films.
À une rage destructrice, une rage violente, une rage qui, d'une certaine manière, élimine l'adversaire. C'est une rage qui ne résout pas les problèmes.
Questo secondo me è una rabbia che porta a non risolvere nessuno dei problemi.
Je me définirais comme un anarchiste non violent. Mais en Italie aujourd'hui, c'est très difficile de trouver une voie politique à suivre, une idée politique à laquelle appartenir. En ce moment, en Italie, au plan politique, je ne vois aucune lumière.
Politicamente non c'è luce, ecco. Non vedo luce, ecco.
reste.
Et alors justement, du coup, c'est la question qu'on a envie de vous poser. Eva, comment il est dans l'Italie d'aujourd'hui, Bellocchio?
Alors, peut-être parce qu'il est revenu des utopies, peut-être aussi parce qu'il ne croit plus à une action collective. Je ne parlerai pas d'un désenchantement, mais plutôt d'un repli sur soi-même. Soi-même ne pas renoncer.
C'est une vague mondiale. En Italie, cette peur de l'invasion, de celui qui est différent, a causé non pas la victoire, mais l'essor des partis nationalistes. De ceux qui, en parole, combattent cette invasion, de ceux qui sont différents, d'où le succès de la Ligue en Italie et du parti de Le Pen en France.
Par exemple, le grand succès de la Ligue. Et penso del partito di Le Pen qui in Francia.
Et on en arrive à ce paradoxe. C'est vraiment un paradoxe pour moi que les idées de gauche sur ce sujet sont véhiculées par le pape François.
Un portatore di valori di sinistra.
Il est devenu une référence. Moi, je m'oppose comme je le peux, comme un citoyen et comme cinéaste, à la droite réactionnaire, avec un progressisme qui certes a beaucoup pâli, mais c'est beaucoup mieux que les propositions que j'ai évoquées précédemment.
Però è meglio di quelle altre posizioni di cui parlavo prima, ecco.
Et le film s'appelle Le Traître et c'est un film inter et c'est un sacré film.
Voilà, donc on y va, on y court. Eva Béton, merci beaucoup.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde à l'envers et Cyril Sauvageau. Cyril, c'est la fin de l'état de grâce pour le nouveau, tout nouveau prix Nobel de la paix, le jeune Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, toujours distingué pour son rôle, tout juste distingué pour son rôle dans le processus de réconciliation avec l'Érythrée. Voilà qu'il se retrouve confronté à la pire crise politique dans son pays depuis son arrivée au pouvoir.
Oui, au moins 67 morts ces derniers jours dans des manifestations violentes à Addis Abeba et dans la région de l'Oromia, au sud du pays. L'Éthiopie n'avait plus connu de tels débordements depuis plusieurs années. Alors certes, les violences communautaires demeurent fréquentes dans ce pays d'Afrique de l'Est très peuplé, qui est une mosaïque complexe d'ethnies et de religions, mais depuis 2 ans et l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed, un vent d'optimisme souffle sur l'Éthiopie. Libération de prisonniers politiques, libéralisation de l'économie, signature d'un accord de paix avec le voisin érythréen après 20 ans de conflit territorial, avec ses gestes d'apaisement et son ambitieux agenda de réforme, Abiy Ahmed a donné un nouvel élan à l'Éthiopie et séduit la communauté internationale. Au printemps dernier, Emmanuel Macron venait lui apporter son soutien et depuis, bien, le prix Nobel de la paix est venu récompenser cette politique d'ouverture. Mais c'est là que les ennuis ont commencé, courant octobre, avec une crise politique interne aussi soudaine que violente, déclenchée par celui qui est aujourd'hui le principal opposant à Abiy Ahmed en Éthiopie, un certain Jawar Mohamed.
Qui n'est autre que son ancien allié.
Absolument, ce journaliste, patron de chaîne de télé, longtemps exilé aux États-Unis, a été le grand artisan de la victoire électorale d'Abiy Ahmed début 2018. Les deux hommes se connaissent bien, ils sont issus de la même ethnie Oromo, majoritaire en Éthiopie. Ces derniers mois, Jawar Mohamed s'est peu à peu émancipé de son allié pour devenir son meilleur détracteur, critiquant sa politique, allant jusqu'à lui reprocher de vouloir instaurer une dictature. Très suivi sur les réseaux sociaux, très présent grâce à sa chaîne de télévision OMN, Oromia Media Network, ce nouvel opposant s'estime traqué à la merci d'une attaque contre sa personne. Il a donc décidé de mobiliser ses militants, de les envoyer dans la rue, d'où ces manifestations de la semaine dernière qui ont tourné à la bataille rangée avec les forces de l'ordre. Pris de court, Abiy Ahmed a mis du temps à réagir. Finalement, ce week-end, il a pris la parole pour appeler les Éthiopiens à s'unir pour ne pas aggraver la crise. Cet affrontement politique risque de durer, voire se durcir, à l'approche des législatives de mai 2020. Ce qui se joue entre les deux hommes, c'est en fait le rôle de leader de l'ethnie Oromo. Abiy Ahmed, pour l'instant, s'efforce de ne pas tomber dans le piège tendu par son adversaire. Il prend soin de se positionner comme le premier ministre de tous les Éthiopiens, par-delà les ethnies et les confessions. Il compte pour cela sur l'aura internationale que lui confère désormais son récent prix Nobel de la paix.
Voilà, sauf que l'image positive d'Abiy Ahmed est en train de se ternir. Cyril, même son accord de paix avec l'Érythrée d'ailleurs pose question.
Oui, depuis la signature de cet accord historique l'été dernier, peu de choses ont changé concrètement dans la région frontalière avec l'Érythrée. La démarcation de la nouvelle frontière sur plus de 1000 km, c'est un enjeu majeur de l'accord de paix, semble pour l'instant en stand-by. Le régime érythréen, qui est l'un des plus fermés et l'un des plus répressifs au monde, ne paraît pas si pressé de tourner la page. Les réfugiés qui fuient l'Érythrée arrivent toujours nombreux en Éthiopie et la population commence à perdre patience. Ailleurs dans le pays, les tensions ethniques et religieuses qui semblaient s'être un peu estompées avec l'espoir soulevé par l'élection d'Abiy Ahmed sont en train de ressurgir inexorablement dans ce pays divisé de longue date entre chrétiens et musulmans. Tout cela n'est pas nouveau, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que ce prix Nobel de la paix est un cadeau empoisonné pour Abiy Ahmed. La récompense est sans doute arrivée trop tôt pour lui. Elle le place sous une énorme pression médiatique et politique, alors qu'il faudra encore beaucoup de temps et beaucoup d'efforts pour mener à bien les réformes et les projets de paix entamés depuis à peine 2 ans. Abiy Ahmed en aura-t-il le temps? Eh bien, c'est là toute la question.
Et ce sera ce qu'on essaiera de suivre, effectivement. J'allais dire que c'est l'un de nos pays préférés en ce moment, parce qu'il se passe des choses dans ce pays-là. On y reviendra dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup, Cyril. À demain, le 18-20. La suite, c'est le journal de Sébastien Paour. Et puis juste après, le téléphone sonne. Belle soirée avec nous.